Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 2h en temps universel, 9h à Bangkok.
Galibonin.
À la une de ce journal, en Thaïlande, une nuit dans les parcs après le séisme destructeur de vendredi. Le gouverneur de Bangkok a autorisé l'ouverture nocturne des espaces verts de la ville pour aider les habitants incapables de rentrer chez eux. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Réaction du président français après les bombardements israéliens en banlieue de Beyrouth. Les premiers après 4 mois de trêve. En Guinée, l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara a été gracié pour raison de santé par le chef de la junte. Et dans l'actualité gabonaise, les avocats de la famille Bongo contredisent le général Oligui Nguema. Oui, selon eux, leurs clients ont bel et bien été torturés en détention. En Asie, un violent séisme a frappé la Birmanie et ses pays voisins vendredi. Le bilan officiel de la junte fait état de 144 morts et plusieurs centaines de blessés. Le tremblement de terre a aussi fait des dégâts en Thaïlande. Un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré à Bangkok. Pour aider les gens coincés dans les embouteillages, le gouverneur de la ville a décidé de laisser les parcs publics ouverts toute la nuit. Le reportage de notre correspondant sur place, Valentin Sébron.
À bord de leur mobylette, deux bénévoles déambulent en pleine nuit dans le parc Chatuchak, au nord de Bangkok, pour distribuer de la nourriture. Ce sont des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, disent-ils, ou qui habitent près du bâtiment qui s'est effondré. Parmi eux, Oil est venu avec sa femme et ses enfants en bas âge. Il est encore traumatisé.
On se fait du souci pour notre sécurité. Ma femme a vu l'immeuble s'écrouler de ses propres yeux. Ça fait tellement peur. On nous a dit que des secousses pouvaient revenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on préfère rester dans le parc, loin du danger.
Un peu plus loin, deux jeunes femmes ont installé un tapis sur l'herbe. Homme ne veut pas rentrer chez elle.
Dans mon appartement, il y a une fissure et l'immeuble dans lequel je vis n'est pas droit. Ils sont encore en train de vérifier si tout est sécurisé. Je panique en pensant aux secousses. Je sens que je ne peux pas retourner chez moi.
Juste derrière le parc, les recherches sont toujours en cours pour retrouver les ouvriers de la tour en chantier qui s'est effondrée. Selon la presse locale, 101 personnes étaient dans la soirée, toujours piégées sous les décombres. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Dans un décret lu à la télévision guinéenne vendredi soir, le général Mamadi Doumbouya a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant guinéen de 2008 à 2010 avait été condamné le 31 juillet dernier pour crime contre l'humanité pour sa responsabilité dans les exactions de 2009 au grand stade de Conakry. Au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Selon un rapport d'enquête mandaté par l'ONU. Le président français recevait ce vendredi son homologue libanais Joseph Aoun à l'Élysée. Une visite qui est survenue en même temps que l'attaque aérienne d'Israël contre le Liban. La banlieue de Beyrouth et le sud du pays ont été frappés en riposte à des tirs de roquettes, explique Israël. Emmanuel Macron a fait part de sa solidarité avec le peuple libanais. Il a aussi exprimé son incompréhension face à ce qu'il qualifie de violation injustifiée du cessez-le-feu.
Les prochaines heures nous permettront de clarifier la totalité de ces points, mais à ce stade, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'activité qui justifiait des frappes. Et donc il est absolument nécessaire que le cadre que nous avons défini, qui a été agréé par le Liban et par Israël, soit dûment respecté. Il n'a pas été respecté aujourd'hui par Israël, de manière unilatérale, et sans que nous n'ayons eu ni information ni preuve des faits générateurs ou du déclenchement. Fort de cela, nous allons continuer d'y travailler ensemble avec nos équipes. J'appellerai dans les prochaines heures le président Trump pour échanger avec lui sur ce sujet. Et j'aurai l'occasion d'avoir dans les 48 prochaines heures le premier ministre israélien pour avoir entre autres un échange nourri sur ce sujet.
Le président français Emmanuel Macron, de son côté, l'administration Trump dit apporter son soutien total à l'État hébreu. Le département d'État américain a sommé l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah. L'ONU annonce une chute de 40% de ses financements pour l'aide alimentaire. Réunis au sommet contre la malnutrition organisé jeudi et vendredi à Paris, pays et donateurs privés se sont engagés à donner près de 28 milliards sur 4 ans, pas assez malheureusement pour pallier aux coupes américaines. Washington, jusqu'alors premier contributeur, a annoncé réduire de 90% son budget alloué à l'aide internationale. Un séisme économique pour le monde associatif et des ONG. En déplacement au Groenland, le vice-président américain a fustigé le Danemark pour sa gestion du territoire autonome. En visite sur la base militaire américaine de Pituffik, J.D. Vance accuse le gouvernement danois de n'avoir pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. Il faut que cela change, a-t-il ajouté. Déclarations incendiaires au moment où Washington accentue la pression pour mettre la main sur ce territoire de plus de 50 000 habitants. Dans la journée, Donald Trump a répété que les États-Unis avaient besoin du Groenland, que c'était très important pour la sécurité internationale. Les avocats de la famille Bongo ont réagi aux propos du général Oligui Nguema. Le président de la transition gabonaise avait assuré que Sylvia et Noureddine Bongo, détenus depuis le coup d'État du 30 août 2023, n'avaient pas été victimes de torture. Mais selon maître François Zimré, non seulement ses clients sont détenus hors de tout cadre légal, mais ils ont bel et bien été victimes d'actes de torture dont il a vu lui-même les marques physiques et mentales et pour lesquelles il a saisi la justice en France.
J'ai souvent rencontré des victimes, j'ai vu les choses difficiles. Mais je dois dire que j'ai rarement été bouleversé comme je l'ai été lorsque j'ai vu Sylvia Noureddine Bongo. Et j'affirme, ils ont été torturés. Peut-être que le général ne le sait pas. Et ces tortures avaient pour objectif d'obtenir d'eux le transfert de la totalité de leurs biens auprès de proches du régime. Leurs comptes ont été vidés, les villas qu'ils possédaient, les biens immobiliers qui appartenaient à Sylvia Bongo avant son mariage ont été réattribués au président Oligui ou à des proches. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans un deuxième sous-sol, sans voir le jour, depuis 18 mois. Dans des conditions épouvantables, ils ont été torturés dans des conditions que je ne vais pas détailler pour ne pas porter atteinte à leur intimité, à leur dignité. Je l'ai vu de mes propres yeux, je sais reconnaître quelqu'un qui est traumatisé, les récits sont concordants, il se trouve qu'il y a eu aussi des témoignages, donc nous avons un dossier qui est extrêmement solide.
Maître François Zimré, qui a également exhorté le gouvernement intérimaire gabonais à faire preuve d'humanité et mettre fin à leurs 18 mois de captivité. En France, l'ex-mari de Chaynès Daoud écope de la prison à vie dans l'affaire dite du féminicide de Mérignac. Une peine exemplaire pour l'homme de 48 ans assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En 2021, Mounir Bouta avait brûlé vive sa compagne après lui avoir tiré au fusil dans les jambes. Un crime qui a profondément marqué toute la société française, a déclaré l'avocat général. Et pour terminer, retour sur les sorties de ce mercredi en France. On vous parle aujourd'hui d'un film qui a remporté la Concha d'Or, la plus haute récompense au Festival de San Sebastián. Ce documentaire exceptionnel sur la corrida s'intitule Tardes de Soledad, qu'on pourrait traduire par des après-midi de solitude. Ce long métrage raconte l'histoire de l'Espagnol Albert Serra, qui suit une star de la tauromachie, le Péruvien Andrés Roca Rey, Elisabeth Le Quiré.
De lui, on dit que c'est le roi des toreros, le plus doué et le plus téméraire, capable de risquer sa vie à chaque instant dans l'arène. Pendant des mois, Albert Serra et son équipe l'ont suivi au fil d'une douzaine de corridas à Séville, Madrid ou Lima, filmant le face-à-face entre l'homme et l'animal au téléobjectif en plan serré.
Comme les pueblos antiguos, la música.
Ils ont accumulé 600 heures de rush pour capturer l'essence du combat, la parade, la pose de banderille, l'affaissement de la bête, jusqu'au moment où l'on voit dans les yeux du taureau la vie en train de le quitter. Est-ce une performance artistique ? De fait, le film n'est pas dénué d'une forme de beauté glacée, soutenue par l'habit de lumière et la gestuelle chorégraphiée du torero. Mais la violence, répétée ad nauseam et captée de façon quasi clinique, nous montre tout autre chose, la brutalité du rituel, révélée dans ses moindres détails, nous faisant basculer de spectateurs à témoins, voire même complices.
Le compte-rendu d'Elisabeth Le Quéret sur le film Tardes de Soledad qui met fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi et restez avec nous à l'antenne d'RFI.